J'aimerais tout d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma femme, à moi et à nos enfants. Un accueil chaleureux, ça se sent quand on arrive dans une église. Et quand on est arrivé, on a vu des sourires et des regards chaleureux. Alors je vous remercie énormément, ça met à l'aise. Et je tiens à vous dire que c'est très important quand, surtout, il y a des non-chrétiens qui viennent dans une église, le fait d'être accueilli chaleureusement. Donc si vous faites ça tous les dimanches avec tout le monde, continuez comme ça, c'est merveilleux. Alors vous avez également les salutations de notre église de Charleroi-Nord. Alors, j'ai encore jamais utilisé ça, je sais pas si on m'entend. Je l'ai allumé, c'est technologique ici. Alors, le titre de ma prédication, c'est Avez-vous de beaux pieds ? Ce matin, on va parler de pieds, chers frères et sœurs. On va parler de vos pieds, on va parler de mes pieds, de nos pieds. Alors, on va tous se mettre debout, on va montrer nos pieds, on va se les mettre les uns à côté des autres. On va enlever nos chaussures, on va enlever nos chaussettes. Non, s'il vous plaît, gardez-les. Gardez vos chaussures, gardez vos chaussettes, restez assis. Mais je vous assure qu'on va bien parler de pieds ce matin. On va plutôt parler des pieds spirituels. Vous pouvez me rejoindre avec moi dans la Bible. Alors pour ceux qui ont une Bible papier, j'aime bien entendre les pages tournées. On est à l'ère du numérique, c'est vrai qu'on a toutes nos Bibles sur les téléphones et les tablettes. Mais moi j'encourage souvent à garder nos Bibles papier afin de ne pas perdre cette habitude. Alors vous pouvez me rejoindre dans Romains chapitre 10, versets 1 à 15. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, Papa, ce matin je désire que l'on puisse t'apporter tout le respect et tout l'honneur que tu mérites. Je voudrais que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous visiter, chacun, afin de nous prendre conscience, encore de nous sensibiliser de qui tu es. Tout au long de la présidence et de la louange, on a encore ce rappel de quel amour tu as eu pour nous, quelle puissance tu déploies pour chacun d'entre nous. Papa, apprends-nous devant toi à fléchir la tête, à fléchir les genoux, à te respecter, toi le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Aide-nous à nous approcher comme avec ce buisson ardent où tu avais demandé à ton serviteur d'enlever ses sandales car le lieu qu'il foulait était saint. Là, il y avait ta présence en ce lieu. Seigneur, en chacun de nous, il y a ta présence. Tous les jours de notre vie, on devrait te respecter, t'honorer. Apprends-nous à nous approcher de toi avec un cœur pur, sincère et droit. Que tu sois encore glorifié et honoré durant tout ce moment. Amen. Alors, petit contexte de Romains chapitre 10, 1 à 15. Alors, tout d'abord, la rédaction de ce livre aux Romains se situe durant le troisième voyage missionnaire de Paul. Paul était déjà à son troisième voyage missionnaire. Alors, quand on lit l'épître aux Romains, on se rend compte de quelque chose quand on fait attention. Il y a des juifs qui sont très pratiquants, qui recherchent la justice, c'est-à-dire qui veulent être sauvés. Ils font plein de choses. Ils sont dans leurs habitudes, dans leurs rituels religieux, tout ça pour obtenir le salut et la justice de Dieu. Et puis, d'un autre côté, il y a ceux qui ne pratiquent pas. Il y a les païens, on appelle ça comme ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les païens qui ne recherchent pas la justice. Et quand on vient leur apporter la parole de Dieu, quand ils entendent pour la première fois, pfiou, il y a le déclic, et là ils ouvrent leur cœur à Dieu, alors qu'ils n'ont fait aucun rituel pendant des années, aucune pratique, du jour au lendemain, ils s'ouvrent au Seigneur et ils croient. Comment expliquer ce phénomène? Les juifs recherchaient la justice de Dieu par la loi par leur propre pratique, par leur propre force. Ils étaient focalisés sur la loi, sur les œuvres, c'est-à-dire gagner les faveurs de Dieu par leurs propres efforts, mais Dieu sauve sur le principe de la foi. Ça, c'est le contexte de Romains. Lisons ensemble Romains chapitre 10, versets 1 à 15. Et c'est Paul qui parle. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel ? Ce serait en faire descendre de Christ. Ou alors, qui descendra dans l'abîme ? Ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Verset 12. Ainsi, il n'y a aucune différence entre juifs et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et le verset 14 et le verset 15 sont les versets clés de la prédication. Verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Jusque-là, la lecture. Verset 1. Revenez avec moi sur le verset 1, s'il vous plaît. Qui est pour moi un verset d'une importance capitale dans ce passage. Ce verset nous met en avant ce que Paul a profondément dans le cœur. Un désir, une passion. Quelle est cette passion pour Paul ? J'aimerais le relire avec vous. Verset 1. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Une question pour chacun d'entre nous. Avons-nous réellement, je dis bien réellement, à cœur que des âmes soient sauvées? Avons-nous sincèrement envie que nos voisins, nos proches, même peut-être parmi nous s'il y a des non-chrétiens, nos collègues soient sauvés? Pire, avez-vous envie que la personne qui vous persécute, la personne qui parle dans votre dos, la personne qui vous fait du mal jour après jour, la personne qui vous a fait tomber en burn-out, la personne qui, vous avez compris, cette personne-là soit sauvée, qu'elle se retrouve dans le royaume de Dieu avec vous? Paul, suite à sa conversion, était considéré par un traître, par les juifs non convertis. Pourquoi ? Rappelez-vous que Paul a aussi été très, très, très zélé. Comme je l'ai dit lors de l'introduction, il y avait des juifs qui recherchait la justice et qui était très zélé. Il faisait plein de choses pour espérer avoir le salut. Paul faisait partie de ces gens-là. Il allait jusqu'à faire emprisonner, voire même tuer ceux qui ne voulaient pas respecter la loi et les traditions. Ça, je peux vous dire que c'était quelqu'un de fervent. Difficile de faire mieux. Jusqu'au jour où quelqu'un lui est tombé dessus. Beaucoup connaissent la réponse. Jésus. Peut-être c'est ce que le bébé voulait dire. Il a dû comprendre que seules les œuvres ne suffisent pas pour être sauvé. Il lui manquait la connaissance de la justice de Dieu. On voyait ça au verset 2 à 4. Paul, avant de rencontrer Jésus, ignorait que Dieu sauvait par la foi. Et c'est à partir de ce moment-là, où Jésus lui est tombé dessus, qu'il a commencé à avoir de beaux pieds. Alors pour la suite du message, on va aborder 4 points. Le premier, ce qui se passe avant la conversion. 2, ce qui se passe après la conversion. 3, on va aborder l'opposition à l'évangile. Et 4, notre mission, annoncer l'évangile. Ce qui se passe avant la conversion. Alors, encore une question pour tout le monde, j'aime bien en poser. Vous souvenez-vous d'où vous venez avant d'être chrétien? Vous souvenez-vous dans quel état vous étiez? Vous souvenez-vous comment vous vous comportiez et comment vous parliez? Certains parmi nous étaient peut-être, c'est peut-être pas le cas, hein, mais certains c'est peut-être le cas, peut-être certains étaient violents avant leur conversion, très vulgaires, alcooliques, voleurs, menteurs, ou même addicts, accros à certaines choses. Petit témoignage personnel, je n'ai plus peur d'en parler. J'ai pendant longtemps, très longtemps, et c'est peut-être le cas de certains parmi nous, j'ai été accro à la pornographie pendant très longtemps. Alors quand je dis accro, c'était vraiment un besoin. Il fallait que j'en regarde tous les jours. Le matin, à mon réveil, juste avant de partir à l'école, en revenant de l'école, le soir avant d'aller dormir, pendant la nuit, je me nourrissais tout le temps, tout le temps, tout le temps, presque tous les jours de pornographie. Et plus j'en regardais, plus j'y pensais. Et plus j'y pensais, plus je voulais en regarder. Vous voyez le cercle vicieux que ça fait? Et puis, comme Paul, Jésus m'est tombé dessus. Et j'ai enfin attrapé la main qu'il me tendait depuis longtemps et ma nouvelle vie a débuté. Alors maintenant, quand je regarde en arrière, quand je vois d'où je viens et ce que je suis devenu, moi je veux lui dire merci à l'infini. Que je l'aime parce qu'il m'a sauvé alors que je ne le méritais pas. Alors que j'étais son ennemi, il m'a quand même pardonné malgré tout ce que j'ai fait avant sa conversion, ce que je peux faire encore pendant et ce que je vais faire encore après. Il y a un chant que j'affectionne particulièrement, il s'intitule « Un si grand miracle ». Peut-être beaucoup parmi nous le connaissent. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation et mon péché s'efface par ta rédemption. Ce don si merveilleux, comment le vivre? Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir? Voilà comment nous étions avant. Ignorants, aveugles, loin de la vie et de l'espoir. Et en Colossiens 1:21, la Bible dit même que nous étions étrangers et ennemis de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez prendre conscience de ça. Voilà comment on est, avant notre conversion, on était étrangers et ennemis de Dieu. Et aujourd'hui, on l'a rappelé plein de fois durant la présidence, On est ses enfants, on est son ami. De ennemi, on passe à ami. Dingue. Alors Paul se souvient très très bien d'où il venait et ce qu'il a fait contre Christ et tous ceux qui croyaient, tous les croyants, avant sa conversion. Et après avoir rencontré Jésus, il savait qu'il avait reçu un don si merveilleux qu'il ne pouvait pas le garder pour lui seul. Ce serait même désobéir à Dieu. Il fallait donc qu'il annonce la bonne nouvelle, car lui aussi avait été sauvé. Ce qui se passe avant la conversion. Deux, ce qui se passe après la conversion. Alors dans son cœur, Paul, il a cru au Seigneur Jésus. Et de sa bouche, il a annoncé et proclamé sa nouvelle conviction. Et ça, j'aimerais qu'on puisse relire ensemble les versets 8 à 11 qui attestent cela. Quand on a une nouvelle conviction, ça bouillonne en nous. Le cœur et la bouche attestent, annoncent notre nouvelle conviction. Versets 8 à 11. Que disait-elle donc ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Avez-vous remarqué dans ces quelques petits versets l'importance entre la bouche et le cœur? Ils ont un lien très, très étroit, très intime. Quand on est réellement amoureux de quelqu'un, cela devrait se voir au travers des gestes et des paroles, normalement. C'est parce que j'aime ma femme que je vais l'aider au quotidien avec les enfants et les tâches ménagères, et ce, malgré, souvent, la fatigue après le travail. C'est parce que ma femme m'aime, qu'elle est patiente envers moi et qu'elle me montre son amour par de petites attentions jour après jour. Cerise sur le gâteau, c'est parce que Christ nous a aimés le premier et qu'il l'a démontré à la croix par son sacrifice que nous voulons en retour lui montrer notre amour pour lui. Alors si nous croyons vraiment en Dieu et que nous savons que nous sommes sauvés, au plus profond de notre cœur, alors on doit désirer le partager et l'annoncer avec autrui. Et pour ça, j'aimerais, en parlant d'annoncer, j'aimerais vous illustrer quelque chose. On va faire travailler un peu l'imagination. On va se projeter dans le passé. Pour ceux qui connaissent un peu l'époque moyenâgeuse, l'époque des châteaux forts, imaginez, vous faites partie d'une population, vous apparaissez dans un château fort. Vous êtes en temps de guerre. Votre armée est déjà partie au front. Vous ne pouvez pas avoir des nouvelles d'eux parce que il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet. La seule manière d'avoir un retour, savoir si votre armée a gagné ou perdu, c'est qu'une personne vienne en courant ou sur un cheval et dise « On a perdu, ils arrivent fouillés » ou alors « On a gagné ». Alors, ça fait des jours et des jours que vous attendez le retour de cette personne porteuse de, on espère, de bonnes nouvelles. Vous attendez, et vous attendez, et vous attendez, jusqu'à ce qu'un beau jour, vous apercevez à l'horizon la personne. Elle court, elle court, elle court de toutes ses forces. Le cor retentit pour annoncer sa venue. Désolé, je le fais peut-être mal. Les portes s'ouvrent. Il rentre dans le château. Les portes se ferment. La question que vous posez à ce moment-là, c'est quoi ? Avons-nous gagné ? Alors, encore une question. Qu'est-ce qui se passe si votre armée a perdu ? Qu'il annonce « Notre armée a été vaincue ». Qu'est-ce qui peut se passer ? J'ai pas entendu. On tue ? Tuer ? Donc tuer juste... celui qui apporte la mauvaise nouvelle. Peut-être. Peut-être. Donc ça, c'est vraiment dans le désespoir. On le tue. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? C'est la panique. La crainte. Qu'est-ce qui peut se passer avec la population qui reste, donc tous les civils hein, qui restent dans le château? Alors, soit ils fuient,
la peur,
ils peuvent se faire tuer, donc l'armée ennemie peut arriver, ils peuvent mourir ou être emprisonnés, devenir esclaves. À l'inverse, si la victoire est remportée, liberté, paix, tranquillité, sérénité, pas d'esclavage. Alors au moment où le messager annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire la victoire sur l'ennemi, vous bondissez, vous pleurez de joie, vous êtes sauvés, pas de torture, pas de souffrance, pas d'esclavage. Une fête magistrale est organisée, un banquet énorme est organisé, suivi d'une fête grandiose afin de célébrer la victoire. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un autre passage dans la Bible, en 2 Samuel, et c'est sur ce passage que je me suis inspiré pour cette illustration. 2 Samuel, chapitre 18, versets 24 à 28. 2 Samuel, chapitre 18, versets 24 à 28. David était alors assis entre les deux portes de la ville. La sentinelle marchait sur le toit au-dessus de la porte, sur la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Un homme courait tout seul. La sentinelle cria pour l'annoncer au roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme courir. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Alors le roi dit, « Il apporte aussi de bonnes nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît être celle d'Achimatz, le fils de Tsadok. » Le roi dit alors, « C'est un homme de bien et il vient apporter de bonnes nouvelles. » Trois fois qu'il le dit. Achimatz cria au roi, « Tout va bien. » Voilà la nouvelle qu'il apporte. « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, « Bénis l'Éternel, béni soit l'Éternel, ton Dieu. Il a livré en ton pouvoir les hommes qui levait la main contre mon Seigneur, le roi. » Waouh ! Voilà ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu. Écoutez bien. Être des messagers, porteurs de bonnes nouvelles pour tous ceux qui sont perdus, brisés, vides et sans espoir. En gros, nous sommes appelés à avoir de beaux pieds. Merci, il y en a quelques-uns qui suivent, ou qui osent le dire. Ça, c'était ce qui se passe après la conversion. 3, l'opposition à l'annonce de l'Évangile. Alors, chers frères et sœurs, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. N'oublions pas qu'en tant que vrais chrétiens, nous sommes tous les jours en guerre. Alors, je ne parle pas d'une guerre humaine. On en entend beaucoup parler dans les médias. Ça tourne en boucle. Moi, je vous parle d'une guerre spirituelle qui est bien pire que toutes les guerres humaines que l'on peut vivre. Chaque jour, au-dessus de nos têtes, le combat fait rage. Alors souvent, on n'entend rien, on ne voit rien. Mais un combat se fait rage. Parfois, Dieu nous permet de voir des choses, ou de ressentir des choses, ou de subir des choses. Et là, on prend plus conscience du combat qui fait rage. Satan et ses démons œuvrent à chaque instant, afin qu'un maximum d'individus ne puissent pas recevoir l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand il ne peut l'empêcher, c'est-à-dire que la graine se plante, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas que cette graine germe et grandisse. Et s'il n'arrive pas à l'empêcher de germer, il fera tout pour l'étouffer, afin qu'elle stoppe sa croissance et qu'elle meure. Vous pouvez lire la parabole du semeur, si vous le voulez, en Luc 8, 4 à 15. Alors, attendez-vous donc à recevoir de l'opposition si vous voulez proclamer haut et fort ce que Jésus a fait pour vous. Et j'aimerais encore partager un petit témoignage. Alors moi, c'est ce que j'ai vécu, peut-être que d'autres ne l'ont pas vécu. Lors de mon baptême, ma conversion, j'ai dit haut et fort ce que Jésus a fait pour moi. J'ai dit haut et fort ce que je voulais faire pour lui. Il y a un chant qui dit « j'ai décidé de faire ça pour toi Jésus, j'ai décidé de faire ça pour toi Jésus, parce que tu m'as aimé, je veux faire ça pour toi, ça, ça, ça. » On est tout feu, tout flamme. J'aime bien, ça c'est mon expression, j'étais chaud boulette. Et parce que j'ai osé publiquement, haut et fort, dire que j'aime Jésus et que je veux le suivre et que je veux annoncer l'évangile autour de moi, je peux vous dire que j'ai vite été refroidi. Satan a tout fait pour m'étouffer, pour me mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que vous l'avez vécu, peut-être pas, mais je sais que c'est plusieurs témoignages que j'ai déjà entendus et c'est ce que j'ai vécu. Alors, la différence avec l'illustration au temps des châteaux forts, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, en fait, nous connaissons déjà l'issue du combat. Chers frères et sœurs, on a déjà gagné. Et ça, je vais vous le répéter droit dans les yeux, chers frères et sœurs, on a déjà gagné. Nous sommes dans l'équipe gagnante. À la croix, Jésus a brisé les chaînes de l'esclavage. On l'a chanté aussi lors de la présidence. Et Jésus a vaincu Satan. Son corps brisé et son sang versé pour nous afin que nous soyons sauvés. Chers frères et sœurs, vous êtes victorieux grâce à Jésus. Et je pense que ça, on devrait se le rappeler tous les jours. Tous les jours, nous sommes victorieux en Jésus. Malgré tout ce que l'on peut vivre durant nos journées, nos semaines, les mois. Il y en a qui vivent peut-être des semaines archi nulles. Vous êtes peut-être attaqués régulièrement. Mais par le sang de Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Il y a un chant qui dit, juste deux phrases, et c'est dans le titre, c'est « À toi l'honneur ». Ton corps brisé sur la croix a porté ma condamnation. Et ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. C'était le point 3, l'opposition à l'évangile. Dernier point, avant de passer à la conclusion. Notre mission, annoncer l'évangile. Alors j'aimerais qu'on relise les deux versets clés ensemble. Romains 10, versets 14 à 15. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors ici, on est au cœur même de l'œuvre missionnaire chrétienne. Par une série de quatre questions, Paul passe en revue les étapes qui conduisent au salut des juifs et des non-juifs. Donc tout le monde est englobé, toute l'humanité est concernée. Alors maintenant, si on lit ces deux versets à l'envers, ça devient des affirmations, et écoutez bien. Dieu envoie ses serviteurs. 1. Dieu envoie ses serviteurs. 2. Ses serviteurs prêchent la bonne nouvelle du salut. Ils ont de beaux pieds. 3. Les pécheurs entendent l'offre de Dieu de la vie en Christ. 4. Ceux qui croient invoquent le nom du Seigneur. 5. Ceux qui invoquent son nom sont sauvés. C'est une suite logique. On ne peut pas faire plus clair. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de moi ? De moi ou d'autres humains pour propager sa parole ? Vous savez, le Seigneur, il suffit qu'il fasse et les vies sont sauvées. Il suffit qu'il fasse et tout est réglé. Vous savez, c'est comme les pubs Swiffer ou les pubs tu mets un peu de produit, et, oh, tout devient blanc, tout devient... Ben oui, Dieu est tout puissant, il pourrait faire juste ça et tout est arrangé. Il pourrait convertir toutes les vies de la terre. Pourquoi il a besoin de moi ? Au verset 14 et 15, Dieu, notre Père, notre Papa, désire que nous nous rendions disponibles pour lui. Il nous appelle à travailler en étroite collaboration avec lui. Cela est profitable pour celui qui entend la parole, sauver des âmes, mais aussi pour notre propre croissance spirituelle. Si vous vous dites à chaque fois que quelqu'un d'autre fera bien le travail à votre place, alors vous passerez à côté de nombreuses bénédictions. En conclusion, Dieu est celui qui envoie. Nous sommes ceux qui sont envoyés, que ce soit juste à côté de chez nous ou bien plus loin. Alors comment répondrons-nous à cet appel? Voulez-vous être un de ces messagers comme au temps des châteaux forts qui apportent d'excellentes nouvelles autour d'eux? Voulez-vous, chers frères et sœurs, avoir de beaux pieds? Je ne sais pas quel est l'état de vos pieds actuellement, c'est entre vous et le Seigneur. J'aimerais vous rappeler que Christ a eu des pieds merveilleux. Il est venu avec ses beaux pieds il y a 2000 ans, et aujourd'hui c'est notre privilège et même notre responsabilité de nous rendre avec de beaux pieds auprès d'un monde perdu. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Autrement dit, qu'ils sont sales, les pieds de ceux qui n'annoncent pas la paix, de ceux qui n'annoncent pas de bonnes nouvelles. Avez-vous de beaux pieds? J'aimerais vous inviter à prier pour terminer. Papa, merci pour ce privilège de pouvoir nous rassembler, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir écouter tes enseignements. Aide-nous à ne pas simplement écouter. Aide-nous à mettre en pratique également. Papa, aide-nous à avoir de beaux pieds. Des pieds comme ton fils. Jésus, tes pieds ont été sublimes. Aide-nous à t'imiter, s'il te plaît. Que notre vie entière te glorifie. Sensibilise-nous, Père, aux âmes qui nous entourent. Ne vivons pas pour nous-mêmes. Père, aide-nous à ne pas vivre pour nous-mêmes. Le sacrifice que tu as offert à la croix est un don si merveilleux pour tout chrétien. Aide-nous à, comme Paul, à ne pas vouloir le garder, mais à le propager, à annoncer la conviction qu'on a en nous, l'espérance du salut. Papa, merci pour ta patience envers nous, ton immense patience. Apprends-nous à t'obéir tous les jours de notre vie. Amen. Ma femme et moi vous présentions ce que Dieu nous a mis à cœur pour notre projet. On va vous passer une petite vidéo qui va placer le cadre, le contexte. Et après, on reviendra ensemble pour vous expliquer plus de détails. Voilà.